Alors, j'en parlerai en langue française, bien entendu. Abandon est un mot français qui a des voisins très proches dans les langues romanes, par exemple, abandono en espagnol. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en français, et plus que dans les autres langues romanes, le mot, et comme beaucoup d'autres mots, est habité par l'étymologie. Abandono en espagnol a un seul sens, qui est le sens de délaissement, tandis que le mot français abandon a à la fois le sens de délaissement et de renonciation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans ce raccourci toute l'histoire du mot, que je vais détailler un peu plus tard. Donc, quand on parle d'abandon, en général, tout de suite, c'est l'émotion qui nous soulève. Abandon est un mot opaque, un mot clos et un mot plein. On parle d'abandon et on entend des sons. A, B, pas de C, on s'est fait voler, le D qui sonne. Et c'est d'emblée, on est dans l'émotion et on se remet en situation d'apprendre à relire et relier nos émotions comme un enfant épellerait l'alphabet, avec quelques confusions qui sont nées justement de ce trop-plein émotionnel. Cet abandon, ce sont trois syllabes comme trois notes de musique. Elles commencent en alphabet et elles finissent en coup bas. Quelque part, il y a de la souffrance. Alors, abandon, c'est un mot simple, mais en apparence seulement. Il a une grande puissance d'évocation, il a une très forte capacité de nous ramener tous des souvenirs intimes. Personne qui n'ait de lien avec l'abandon, enfin je ne crois pas. Des souvenirs intimes et personnels, mais qui sont tous reliés entre eux autour d'un noyau central dont il va être question aujourd'hui, c'est l'abandon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait rien à en dire, parce que c'est un mot trop clos, un mot trop lourd? Est-ce que simplement on peut dire que c'est l'horreur absolue? C'est peut-être pas suffisant. Je pense que justement, il faut en parler. En parler parce qu'à l'abandon est liée souvent la punition. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Etc. etc. Et donc, pour en parler, d'abord, je vais m'intéresser à l'étymologie. Et de là, introduire une analyse comparative à partir de la mythologie, c'est-à-dire de passer de l'histoire du langage aux origines de la mythologie, et là vous verrez aussi qu'il est question de langage. Et ensuite on abordera la littérature, parce que la littérature est l'histoire intime de l'humanité, tandis que la mythologie est l'histoire officielle, l'histoire des fondations, des origines, mais l'histoire reconstruite, l'histoire convenable, celle qu'on veut laisser à la postérité. Alors commençons tout de suite, parlons d'abandon avec le secours de l'étymologie. Alors, historiquement, il y a un avant et un après XVIIe siècle dans le langage. Alors, abandon vient d'un mot indo-européen. Vous avez la syllabe centrale ba qui a donné ban, qui désigne la parole solennelle et qui a donné, dans certains cas, la loi. La parole solennelle a donné en grec le verbe phémi et le latin fari, d'où sont dérivés face, et qui nous ont donné fatum, le destin, un jour faste, un jour néfaste. Tout ça, c'est le même environnement de parole. Et c'est lié à abandon. Ensuite, le ban en francique, c'est la langue des anciens francs, est devenu ce qu'on connaît, mettre au ban de la société, c'est-à-dire mettre hors jeu, hors la société humaine. Ceci, c'était vers 1130. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un avant et un après XVIIe siècle, et il y a vraiment deux sens distincts d'abandon. Alors, avant le XVIIe siècle, le mot abandon, qu'on dit plutôt abandonner, écrit en trois mots, abandonner, c'est donner à ban, c'est-à-dire lâcher, remettre en liberté. Et on l'emploie à propos de choses ou à propos d'animaux, notamment de chevaux, d'oiseaux, de faucons pour les chasseurs, c'est-à-dire abandonner, c'est replacer dans l'univers naturel, non humain ou non humanisé. C'est un univers hors la parole et hors le lien, un univers libre. Libre avec le double sens de ce mot, sens positif et négatif. On est libre, mais on est délaissé. Mais ça n'est pas encore, c'est notre vision moderne, ça n'est pas encore le cas avant le XVIIe siècle. Alors, un tournant, une évolution se fait autour du XVe siècle. Le sens dominant, celui que nous connaissons actuellement, émerge. c'est abandonner désormais, c'est ne plus s'occuper d'eux, c'est laisser. Mais c'est toujours pour les choses, pour la terre, pour les bêtes. Et donc, vous voyez, ce premier sens, c'est un sens non psychologique. Il n'y a pas d'idée de délaissement et c'est un sens sans jugement. Abandonner, c'est remettre dans le flux commun, remettre au pot, si vous voulez. Paradoxe, au XVIIe siècle, l'abandon s'humanise, mais en même temps qu'il s'humanise, il prend un sens négatif, néfaste. Et rappelez-vous que abandon et néfaste ont la même origine, la parole. Ce sens négatif est aussi un sens moral. Il y a d'un côté l'abandonneur, qu'on peut écrire aussi en deux mots. Vous me direz qu'est-ce qu'il donne, on en reparlera. Et puis il y a, bon, l'abandonneur, c'est le méchant. Et puis il y a l'abandonné, qui est le malheureux délaissé, qui est dans la déréliction totale, vous voyez. Et donc cette application d'abandon se fait à partir du XVIIe siècle, aux personnes. Et avant le XVIIe siècle, ce n'était pas le cas. Et ce sens va se populariser au XVIIIe siècle. On le retrouve, par exemple, dans Rousseau. Rousseau, qui était un enfant abandonné. Enfin, il a eu son père, mais enfin, l'abandonné, son père l'a délaissé très vite, et l'abandonné est devenu abandonneur, comme vous savez. Voilà, et ensuite, en notre siècle, ou non, c'est déjà le siècle dernier, vers 1950, apparaît l'adjectif abandonnique. Vous voyez qu'on est très loin d'être au banc de la société et remettre en liberté. Mais enfin, ce mot banc a donné énormément de vocabulaire français. Vous avez la banlieue, vous avez la bonne aubaine, tout ça, c'est la même origine. Donc, on voit là que la loi, la parole et le lien sont les trois sources de l'abandon. Et on voit là surtout que l'évolution du langage a préparé, a accompagné l'évolution de l'analyse des relations humaines. Avant, on ne les analysait pas. Il y avait la tragédie. Le plus psychologue de nos tragédiens, c'est Racine. Mais on n'analysait pas l'intériorité, on ne posait pas les questions. Et donc, le changement du mot « abandon » intervient à peu près en même temps que s'épanouit en littérature le « je ». Le « je » devient sujet dans la littérature, bon, avec Rousseau, avec d'autres, et il intervient parce que l'élaboration de l'intériorité humaine, c'est-à-dire de ses relations, s'est trouvée autorisée. Par quel détour, ce n'est pas le lieu d'en parler ici, mais ça pourrait être un autre sujet. Mais vous me direz, donc on a parlé beaucoup de ban, mais où est passé le don? Parce que donner à ban, il y avait quand même le don, il y avait donné. Alors, peut-être on pourrait retrouver le don et se dire que l'abandon n'est pas si négatif que ça. Le don, abandonné, donné à ban, finalement, c'était donner à la communauté, remettre dans le circuit de la nature, si vous voulez, renvoyer au grand large, c'est-à-dire pas du tout tuer, mais redonner à la liberté. Et je pense que ça pourrait être la source d'une réflexion intéressante. Mais le côté négatif est bien entendu que quand on abandonne quelqu'un, on le fait sortir des relations interhumaines qui avaient été ébauchées. Que ce soit donner un nom à un enfant ou d'autres choses comme ça, on l'éjecte du langage, on l'éjecte d'une relation particulière pour le remettre dans le flux commun. Alors, quel don? On peut se dire que c'est pas génial quand même. Hein. L'abandon, c'est un sacré cadeau. Mais enfin, on va voir qu'il pourrait y avoir pire. Et d'ailleurs, il y a pire. Je vous prépare tout de suite. Il y a pire. Donc, si je synthétise d'abord, parce que j'espère que ce que j'ai dit jusqu'à présent est clair. Si ce n'est pas clair, vous manifestez. Pas trop bruyamment, mais enfin, vous pouvez manifester. Donc, l'abandon à l'époque moderne est devenu un manquement à la parole inter-individuelle, un manquement à une relation, à un lien qui avait été ébauché, élaboré. Donc un manquement à la relation humanisante primordiale, et dont l'archétype est évidemment la relation adulte-enfant. Mais ce n'est pas la seule. Tandis que, anciennement, l'abandon, c'était un consentement, un lâcher-prise, un consentement à ce que la parole dite et le lien qu'elle avait établi soient annulés et que la personne ou la chose ou le bien ou la terre abandonnée retombe dans la collectivité. Voilà. Alors, voilà ce bref historique. Ma question maintenant va être, est-ce qu'on peut trouver confirmation de ces enseignements du langage dans d'autres domaines de la vie? C'est-à-dire, peut-on passer du mot abandon à la réalité du fait, l'abandon? Et donc, pour ce faire, j'ai travaillé dans deux domaines. D'abord la mythologie, ensuite la littérature. Alors je voulais n'aborder que la mythologie, parce que je me disais que c'était bien suffisant, qu'il y avait déjà pas mal de bagarres en mythologie. Vous voyez ce que Freud a fait de la mythologie. Je pensais que j'avais largement de quoi nourrir cette intervention. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose intéressante, c'est que dans la mythologie, les abandonnés sont des garçons. Que font les filles? Où sont-elles? Je vous ai dit tout à l'heure que la mythologie, c'est l'histoire officielle de nos origines, tandis que la littérature, je la définirai ici, dans notre contexte, plutôt comme l'histoire intime de l'humanité, de nos relations, de nos émotions, de notre vécu. Eh bien, les filles, elles sont plutôt présentes dans l'histoire intime que dans l'histoire officielle. Alors, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est une observation que je n'avais pas prévue a priori. Vous voyez, et ma communication en deux parties est devenue une communication en trois parties, et j'ai dû ajouter la littérature. Alors, l'abandon et les enseignements de la mythologie, deux enseignements, ou même trois, un troisième assez dramatique. Premier enseignement, les abandonnés, les anciens abandonnés deviennent des fondateurs. Et donc, on va le voir, il est à nouveau question de langage, de parole et de loi. Et on est tout à fait en phase, en harmonie avec l'évolution du langage que je viens de vous retracer. Alors, ces paroles peuvent être des paroles dites, fondatrices, ou des paroles non dites, destructrices. Donc, quand je dis que les fondateurs sont d'anciens abandonnés, je vais prendre deux exemples, un surtout, puis un autre à titre de comparaison. Tout le monde connaît Moïse, dont Freud s'est servi dans Moïse et le monothéisme, totem et tabou. Moïse, prophète du christianisme et du judaïsme, était donc le fils d'une famille juive esclave et il s'est fait abandonner aux eaux du Nil sur un frêle petit panier qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui des Moïse. C'est devenu un nom commun. Et il aurait été recueilli par une princesse qui justement était la fille du pharaon. C'est bien fait quand même. Hein. Et ça se passait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et Moïse est devenu le grand législateur que l'on sait, il a reçu les tables de la loi. Vous voyez le lien entre l'abandon et la fondation. Le lien aussi entre la parole loi et l'abandonné. L'abandonné devient dépositaire, gardien de la loi nouvelle et il fonde une nouvelle civilisation. On comprend pourquoi ce lien entre l'abandonné et la fondation. Lorsqu'on a été abandonné, c'est-à-dire détaché très violemment et sans consentement de ces liens, lorsque les paroles fondatrices de reconnaissance qui nous avaient fait naître à l'humanité sont forcloses, qu'est-ce qu'il reste pour vivre ou pour survivre? Il reste à recommencer, partir de zéro, créer, inventer et donner. Et là, vous voyez, on retrouve le don dont je vous disais qu'il était un peu évacué et je pense qu'il est important de le retrouver. À titre de comparaison, un autre cas mythique que je pense tout le monde connaît, les fameux jumeaux Romulus et Rémus, dont Romulus sera le créateur de Rome, et donc ça remonte dans l'histoire, ça se passait au 7e siècle avant Jésus-Christ, abandonnés, nourris par une louve, et donc qui seront Romulus et non pas Rémus, fondateurs de Rome. Et là, à nouveau, nous avons le lien avec la fondation et la loi. C'était le premier point. Mon deuxième point consiste à faire porter votre attention sur le fait que ces fondateurs, ces ex-abandonnés, sont aussi des passeurs. Ils font le lien entre deux mondes. Alors, dans le cas de Moïse, c'est le monde des éléments, l'eau, le Nil sur lequel il avait été abandonné, et le monde humain. Ça peut être le lien entre le monde animal et le monde humain, le cas de Rémus et Romulus. Ils font également le lien entre une civilisation et une autre dans ces deux cas. On voit par là qu'il s'agit pour les abandonnés de répondre à une mission, d'être conscients qu'ils ont finalement une charge à part, l'abandon étant devenu de ce fait une sorte d'élection. Bon, élection maudite, diront certains. Maudite effectivement, c'est-à-dire maldite, mais Pourquoi ne pas rectifier ces paroles qui ont été mal dites ? Dans cette mission, vous participez de l'un et de l'autre monde, puisque vous avez connu les deux, donc vous êtes plus riche que l'ensemble, l'humanité moyenne, si vous voulez. Vous venez du monde humain, mais on vous a renvoyé dans le monde anté-humain, on vous a renvoyé à la nature par l'abandon. Et donc vous êtes un ambassadeur rêvé. Vous connaissez les deux langues, vous connaissez les deux univers. Mais attention, parfois vous pouvez être le bouc émissaire rêvé, parce que vous en savez trop long. Il vous faut donc être attentif, parce que vous êtes doté de plus de savoir, et vous êtes aussi de ce fait davantage exposé aux incidents de frontières entre les deux mondes. Donc c'est une situation d'élection, mais une situation de danger. Il faut le savoir quand on est soignant ou quand on est abandonné. Quelquefois, on peut être les deux. Donc c'est une force, c'est une fragilité. Vous allez voir que finalement, l'abandon n'est pas le pire des situations humaines. Si on regarde un autre versant de la mythologie, il y a pire que l'abandon. Il y a la dévoration. Parce que l'abandon peut se résoudre en création ultérieure, en fondation ou en refondation. Mais la dévoration, non, c'est archaïque. Je prends le cas chez les Grecs anciens de Cronos, qui était un titan et qui était le père de Zeus. Donc Cronos, vous le connaissez, c'est le dieu du temps qui a donné la chronologie, etc. C'est le dieu du temps, mais en fait, c'est le dieu qui refusait le temps. Refusant le temps, il refusait la loi. Il dévorait donc ses enfants dès leur naissance afin d'éviter d'être détrôné par eux. Voilà une façon de régler le problème du chômage des jeunes qui est assez extrême. Donc il pratiquait une loi sans limite, la loi de son désir, c'est-à-dire une non-loi. Qui pratique la loi du désir sans reconnaître le désir de l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la loi. Or, stratagème de son épouse qui en avait assez de voir dévorer sa pauvre progéniture, elle va placer un jour une pierre à la place du bébé qui venait de naître. Le bébé, c'est le petit Zeus qui deviendra le grand dieu que l'on sait. Et Cronos, n'obéissant qu'à la violence de son désir, parce qu'il est sans loi, rappelez-vous, Cronos se précipite sur le bébé dans ses langes, et c'est une pierre, et il périt étranglé par son refus de partager, son refus de disparaître, son refus de la mort. Il périt étranglé par son désir. Et donc, Cronos n'est pas un abandonneur parce qu'il ne donne rien. Il ne donne même pas un atome de liberté, c'est un dévoreur. Car celui qu'il dévore cesse d'exister dans l'ordre des liens, dans l'ordre de la succession temporelle et aussi dans l'ordre de la vie naturelle. Quand vous êtes dévoré, c'est pour longtemps. Et même pour toujours. Donc, Cronos et ses enfants symbolisent, si on peut dire, la préhistoire de l'abandon. Avant le temps, c'est-à-dire avant l'humanisation des cadres de la vie. Zeus qui lui succédera grâce à la protection de la mère qui ne parle pas non plus. Cronos ne parlait pas, il n'y aura pas de parole, il n'y a que des actes. Mais la mère a utilisé le désir du père, elle l'a porté à terme et l'a déjoué, si vous voulez, par son excès même. Et donc, à la violence paternelle, il y a eu une riposte maternelle à cette violence, et donc Zeus a survécu et il est devenu aussi un fondateur. Il a fait passer le monde des dieux antiques de l'archaïsme à l'humanisation, et donc il a eu lui aussi une fonction de mise en ordre. Voilà pour la mythologie, et c'est à ce point de ma recherche, j'avais regardé aussi quelques autres personnages avant de faire mon choix, c'est à ce point que je me suis dit, mais où sont les filles? Comme il se trouve que j'en fais partie, j'étais un peu concernée, et je trouvais désolant qu'il n'y ait pas de filles abandonnées. Alors, est-ce que ça voulait dire que les filles n'étaient jamais abandonnées? Ça me semblait trop beau pour être vrai. Alors, sans doute, est-ce vous direz que je suis de parti pris, mais quand même, je me suis dit, c'est louche. Et donc, où trouver des filles abandonnées? J'ai parcouru ma mythologie, j'ai regardé partout, et je suis revenue à la littérature, plus exactement à une articulation entre la littérature et la mythologie, en étudiant, en regardant dans l'Iliade d'Homère, également dans Racine. Et donc, je suis allée voir dans ce qui est plutôt l'histoire intime de l'humanité, de nos relations, de nos émotions, c'est-à-dire la littérature. Et j'ai pris l'exemple d'Iphigénie. Iphigénie, bon, si vous avez des souvenirs de l'école, du lycée, c'est l'héroïne de Racine, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, dans l'Iliade, c'est la fille d'Agamemnon, le héros grec de la guerre de Troie. Et vous savez qu'elle sera sacrifiée par son père. En tant que fille aînée, elle a le privilège de pouvoir être sacrifiée. C'est ça, les rangs des enfants ont un sens. Donc quand on est fille aînée, on a ce privilège-là. Et elle sera sacrifiée sur l'autel de la déesse Artémis, qui serait, dit-on, la jumelle, le versant féminin d'Apollon, sacrifiée afin que les vents et la mer se calment et que les bateaux grecs puissent prendre le large. Donc vous voyez, côté fille, l'abandon, c'est plutôt un sacrifice. Ici, c'est l'utilité qui prime. Le délaissement de la fille doit servir une cause. Alors, est-ce que c'est la forme d'abandon destinée aux filles? Je n'oserais pas l'affirmer. Bon, c'est quand même plutôt une tendance de notre civilisation à lire les ethnologues. On voit que les femmes, depuis longtemps, sont objets et monnaie d'échange. Sans vouloir entrer dans la polémique, c'est un fait avéré. Et donc, abandon, sacrifice. Le pire quand même, enfin à mon sens, je ne sais pas si vous serez de cet avis, le pire dans cet abandon, sacrifice, ce n'est pas l'acte lui-même. Il n'est pas très amusant et on n'en sort pas vivant. Ce n'est pas l'acte lui-même et la mort de la malheureuse Iphigénie, c'est avant tout pour moi le fait que tout le monde autour d'Iphigénie lui cache la vérité. Le pire, c'est ce mensonge. Que se passe-t-il, dit Iphigénie à certains moments, mais non, tout va bien, tout très normal, et reste, dors tranquille, ma jolie. Tu vas être sacrifiée demain matin, mais tu n'as pas à le savoir. Et donc, il y a délaissement, il y a rejet hors des liens familiaux, pour une cause utile. Il y a sacrifice de la vie même et enfin il y a refus d'une parole vraie. Iphigénie est rejetée hors du monde de sa famille, hors du monde des vivants, et en plus on ne lui permet même pas de le savoir, de s'y préparer. On lui dénie tout droit à se poser comme maître de parole, on lui dénie tout droit à être sujet de son histoire. Si dramatique soit-elle, si vous voulez. Donc elle est une chose, elle est un objet utile, elle est une monnaie d'échange avec le monde des dieux. Et là aussi on retrouve l'idée de passage. Mais tandis que les abandonnés ont un certain choix, parce que d'abord, ils sont vivants, ils sont revenus à cette liberté qui peut être déréliction, mais ils sont vivants. Iphigénie, elle va mourir. Donc c'est l'abandon à la fois le plus violent, le plus définitif et le plus cruel, parce que c'est la plus extrême des déshumanisations. On est hors la parole tout le temps. Et donc... On pourrait dire qu'elle est, si vous voulez, le pendant d'Isaac dans la Bible. Isaac est le fils sacrifié, mais attention, au dernier moment, Dieu retient le bras armé d'Abraham. Alors qui retiendra le bras d'Agamemnon ou du prêtre sacrificateur? Alors dans Racine, non. Racine, le théâtre de la cruauté, Iphigénie meurt. Mais, si je peux vous rassurer, moi ça me rassure aussi, il y a certaines traditions dans lesquelles Iphigénie, finalement, ne meurt pas. Elle est sauvée par la déesse Artémis, dont elle deviendra une des servantes, une des prêtresses. Et alors, la tradition dit qu'après s'être mise longtemps au service de la déesse, elle serait devenue, comme cette déesse, une femme libre, dont elle aurait fini par emprunter certains traits. Voilà qui peut rassurer. Enfin, vous constatez que la situation féminine est quand même un peu plus difficile à vivre. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Après, au bout de cette assimilation à Artémis, alors que va devenir Iphigénie? Sera-t-elle une fondatrice, une passeuse? Une fondatrice, sûrement pas, puisqu'on est en civilisation patriarcale, mais une passeuse sans doute. Et les passeuses, dans notre monde, ce sont plutôt toutes les personnes qui sont reliées au symbolique, à la religion ou à l'analyse, à la psychanalyse ou à la médecine. Ces gens-là sont des passeurs, Lacan l'a dit. Donc voilà le parcours que je voulais vous proposer. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Il y aurait beaucoup d'autres héros et héroïnes à convoquer. On pourrait parler, puisque c'est l'année Victor Hugo, de la petite Cosette, abandonnée. Vous savez qu'il y a aussi Gavroche. C'est assez intéressant de regarder dans Les Misérables le traitement différent de Cosette et de Gavroche par Hugo. Ce n'est pas indifférent. Gavroche va être créateur de langage. C'est Victor Hugo, le premier qui a osé supprimer la négation. Au lieu de dire « ça ne va pas, ça va pas ou quoi ?» C'est Gavroche, ça. Dans la bouche de Gavroche, il y a, bon, c'est Hugo, mais il y a création de langage. Dans la bouche de Cosette, il y a plainte et résignation. Hein? Donc, c'est quand même intéressant. On pourrait regarder aussi du côté de Virginia Woolf, avec son fameux personnage d'Orlando. Orlando, qui est une femme, mais en même temps qui va vivre plusieurs centaines d'années, c'est un mythe assez fabuleux, et qui deviendra tantôt homme, tantôt femme, et qui connaîtra les deux versants de l'expérience humaine. Mais enfin, bon, je ne vais pas monopoliser votre attention trop longtemps, ça c'était juste un petit apéritif, une mise en bouche, une mise en situation de l'abandon. Je crois qu'il s'agit maintenant d'entrer dans le vécu de l'abandon aujourd'hui, aussi dans le soin à l'abandon. Ce sont d'autres histoires de langage, bien sûr. Moi, il m'appartenait de retracer l'histoire du mot dont nous avons vu qu'il était habité par l'étymologie et plein de mythologie aussi. Et donc, mon propos introductif est une sorte d'assise pour la suite. Et c'est pourquoi je vais céder la parole à mes collègues. Mais avant, si vous avez quelques remarques ou questions, elles sont évidemment les bienvenues. Rien à dire. Puisqu'on parlait de langage, quand même, je trouve que bon, le silence est une opinion, il est aussi un langage, mais c'est un langage peu engagé.
C'est que le propos était complet.
Je vous remercie. Oh, il aurait pu l'être plus, mais enfin, je me suis dit que c'était inutile de trop bassiner et de trop répéter.
Oui, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est effectivement curieux que les femmes qui donnent naissance à la chair de l'homme, les femmes qui donnent naissance à la chair de l'homme, comme ça, comme si les hommes voulaient prendre une contrepartie qui puisse être équivalente en, je sais pas moi, en déniant un pouvoir qu'ils n'ont pas. Enfin, je sais pas comment je m'exprime.
Ça, c'est une idée très forte, une idée qui a été développée par exemple par les ethnologues, par Françoise Héritier par exemple, dans, si vous avez lu Masculin, Féminin, des choses comme ça, c'est la grande idée, et que je crois pour ma part assez juste, disons, suffisamment vérifiée, une idée n'est jamais juste dans l'absolu, que la grande affaire des hommes, c'est d'arriver à contrôler ce pouvoir de donner la vie dont ils sont partiellement exclus, si vous voulez. Et voilà.
La question, c'est quand même pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas pu peut-être plutôt s'opposer à cette puissance masculine qui les a quand même, comme vous dites, donné un rôle, je sais pas comment dire, mais pas de passeur, comme vous dites, quoi. Enfin, au départ, tout au moins. Enfin, il y a un passeur sur le plan de la chair, et puis il y avait une absence sur le plan.
Ceci expliquant cela, sans doute. La femme passeur sur le plan de la chair se voit de ce fait exclue de ce rôle de passeur sur le plan symbolique et de la parole et de la loi.
Mais elle a été complice de cette exclusion.
Ah, ça, c'est la grande question. Complice, consentante ou non, il y a aussi quelque chose de très important quand on le voit, quand on voyage dans des sociétés non européennes, c'est que la question de complice, non complice, c'est une question profondément occidentale et liée à notre droit pénal, à la division en idées, à la division en champs d'existence distincts. Ça, c'est très occidental. Dans un certain nombre de civilisations, il n'y a pas cette division en champs distincts. Déjà, tout simplement, la division entre la religion et le monde civil, la sphère publique et la sphère privée. Hein. Et donc, moi, si je me reporte à mes souvenirs de dialogue avec des femmes kabyles dans les villages ou en Asie, c'est tellement un tout. La vie, la famille, l'existence de soi est tellement un tout. C'est déjà une conquête d'arriver à dire « je » et d'arriver à se ménager un temps à part, vous voyez ? Donc, à construire une certaine intimité. Il manque essentiellement une autorisation de parole et une autorisation de réflexion, de recherche sur soi, et une autorisation d'intimité, de séparation du monde des autres, parce que beaucoup de femmes se sentent coupables. Je me sépare, donc je ne suis plus au service, je ne remplis plus mon rôle de femme. C'est très, très difficile. Il faut penser, nous sommes, nous, l'Occident, nous sommes une toute petite partie de l'humanité. Et donc, le problème n'est pas... Vous voyez, les mots pour le poser le problème ne sont pas forcément des mots mondiaux. C'est ça, je crois.
Merci.
Je voulais vérifier simplement si j'avais bien compris que est-ce que l'abandonné peut ne pas être dévoreur.
Attendez, là il y a un raccourci qui me... Je flippe. Quelle relation entre abandonné et dévoreur?
J'ai cru comprendre ça à un moment.
Non. Dans la première partie concernant la remontée dans l'histoire du mot étymologie, de l'étymologie du mot abandon, on a vu que l'abandon au sens moderne date du XVIIe, l'abandon délaissement, et qui est relié, qui est appliqué aux êtres humains. Avant, il s'agissait d'un abandon consentement à remettre dans le flux commun. Hein. Et donc, ça, c'était la première partie. Et je vous ai dit ensuite, il peut y avoir pire que l'abandon, il peut y avoir la dévoration, parce que dans l'abandon, il reste quand même la vie, le don de la vie reste. Simplement, la vie est redevenue collective et vous n'êtes plus... vous êtes dans l'indivision, si vous voulez, donc pas vraiment un individu, vous voyez. Mais la dévoration, c'est, j'ai appelé ça à un moment donné, c'est la préhistoire de l'abandon, c'est le pire. Avant une première humanisation, la dévoration, c'est qu'on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans le temps, on n'est pas dans la parole. On est dans le passage à l'acte et dans la loi du plus fort, la loi du désir du plus fort. Et donc, c'est une préhistoire, mais il n'y a pas d'autre lien que celui-là. Est-ce clair?
C'est clair.
Merci. Merci.
Je trouve très intéressant, en fait, cette question-là, parce que vous dites qu'il n'y a pas de lien, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel est le lien inconscient que vous faites.
Ah, c'est une
parce
bonne
que
question.
Vous n'amenez pas le ça matin. Par hasard.
Comment?
Vous n'amenez pas ce dernier chapitre par hasard.
Je n'amène rien faites... n'est jamais par hasard, vous voilà. Le savez. J'ai réfléchi. Non, vous voyez, je vais essayer de vous dire comment c'est structuré, comment c'est élaboré ma réflexion. Donc, à partir de l'étymologie, j'ai beaucoup travaillé sur le mot ban, bas en indo-européen, la parole, la loi. Et je me suis dit, mais attention, que devient le don? Dans abandon, il reste don. Ça demeure un don. Le don d'une liberté. Au moins, on ne vous prend pas la vie, si vous voulez. Il reste le don, il reste la vie. Et je me suis dit, finalement, ce qui apparaissait comme le truc le plus horrible, vous voyez, nous, on est conditionnés par Jésus-Christ sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Ça paraît, l'abandon nous paraît le drame le plus abominable de l'existence. Mais en fait, il reste la vie et il reste un don dont on ne connaît pas la forme, ni la finalité, ni la motivation. Mais quelque part, c'est là, c'est dans le mot. Et j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas pire. Finalement, je me suis dit, c'est pas si grave. Et ça m'a fait du bien, parce qu'on a tous notre petit côté abandonné. Enfin, on a, moi, je, si vous voulez, mais les autres aussi, sans doute. Donc, ça m'a fait un certain bien. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal de travailler comme ça, sur un thème. Et j'ai cherché pire. Parce que quand même, il devait bien m'être arrivé pire. On aime bien quand il vous arrive le pire. Au moins, on est quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Et donc, j'ai cherché où était le pire et j'ai fouillé un peu dans ma mémoire, dans mes souvenirs. J'ai laissé aller. J'ai fait un peu, vous voyez, attention flottante. Je suis allée au cinéma, j'ai fait diverses choses pour que ça me revienne. Et il m'est revenu la mythologie et l'histoire de Chronos, le lien entre le temps, la loi. Et je me suis dit, voilà le pire. Pire que l'abandon, c'est la dévoration. Mais ça se place avant le temps, ça se place avant la loi et ça se place avant le lien de parole. Le lien que Chronos a avec ses enfants, c'est un lien uniquement biologique. il fornique, il copule, on pourrait trouver un mot plus élégant, je ne l'ai pas, tant pis. Mais je crois que je n'aime pas beaucoup ce chronos, en fait. C'est pour ça que j'emploie ces mots. Et il naît des enfants, c'est quasiment automatique. Et lui, ça ne lui plaît pas du tout. Vous voyez ? Et les enfants, il les détruit à la naissance, parce que ces enfants symbolisent sa propre mort, c'est-à-dire la limite à son désir et la limite à sa vie. Donc, d'où la dévoration. Mais il peut y avoir aussi des dévorations symboliques. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont bien placés pour le savoir. Mais enfin, dans une archéologie, si vous voulez, la dévoration se situe avant l'abandon. Voilà ce que j'ai voulu mettre en lumière.
Ce qui m'interpelle, moi, c'est le mot « don » également, notamment pour les enfants nés sous X. C'est une chance qui est donnée à l'enfant d'être adopté. Le lien se fait sans doute avec le prochain thème qui sera traité par Psychanalyse Magazine, mais les familles qui recueillent des enfants abandonnés donnent une chance et donnent un nom et font le lien et permettent à l'enfant, en lui révélant l'origine, en positivant l'abandon qui a été fait, lui donne une chance de s'inscrire dans la parole et de s'inscrire dans l'histoire et d'être quelque part des passeurs.
Je crois que vous avez plutôt raison, mais c'est une question que je ne maîtrise pas parce que, enfin pour moi, c'est de l'ordre de l'immaîtrisable parce qu'il y a la souffrance. Et si vous voulez, la souffrance, on ne la réduit pas en équation. On devient un passeur, oui. Mais après, combien de détours? Quel voyage intérieur? J'ai dit tout à l'heure que l'abandon était une élection. Vous êtes un enfant élu, mais une toute élection suppose des privations, des détours supplémentaires. Ça ne se fait pas. On n'a pas une grâce sans contrepartie. Hein. Enfin, Si vous allez être choqué que je vous dise maintenant que l'abandon est une grâce, mais il ne faut pas oublier ce terme don qui est dans l'abandon, je pense.
Je considère aussi que c'est une grâce.
Moi, je ne suis pas sûre d'aller jusque-là parce que je connais des enfants qui sont maintenant des adultes, qui ont vécu des choses très difficiles, mais à un moment donné, si ça peut le devenir, oui, pourquoi pas.
Oui, je trouve très intéressante l'idée que vous avez repris que l'abandon était une élection, était une chance et que la plupart des abandonnés pouvaient être des fondateurs. Est-ce que vous avez repris un petit peu suffisamment d'abandonnés pour voir s'il y avait des conditions à ce qu'ils deviennent des fondateurs? Est-ce que c'était tous qui pouvaient le devenir? Est-ce qu'il y avait dans l'histoire personnelle des choses essentielles à avoir reçues à la naissance ou à la base? Et je rejoins un petit peu, ça me fait penser aux travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience et sur les étayages nécessaires pour rebondir. Et qu'est-ce qui fait qu'on a abandonné, rebondi? Est-ce qu'on pourrait faire des liens avec ce que nous dit Boris Cyrulnik de la résilience?
Il y a certainement des liens à faire avec les travaux de Cyrulnik et son équipe sur la résilience, ça oui. Alors, quelles sont les conditions? Bon, Cyrulnik nous dit dans la résilience, si j'ai bonne mémoire, je l'ai lu quand il est paru, que les enfants issus de couples émotionnellement stables ont plus de chances de s'en sortir. Mais dans le domaine de l'abandon, il n'est pas question de couples parentaux, vous voyez. Et donc l'étayage, il ne peut pas se trouver là. L'étayage, il est forcément dans l'histoire antérieure. Et quand je dis étayage, si étayage il y a, quand je dis qu'on renvoie à la liberté naturelle, qu'on renvoie aux éléments ou au monde des animaux, l'étayage ne peut guère se faire que par une certaine connivence, confiance, complicité, empathie avec la nature et les éléments. Alors c'est un peu un pari, c'est-à-dire si on jette bon, Moïse a été placé dans un berceau qui flottait. Vous voyez, on l'aurait jeté à l'eau. Il y a eu quand même, bon, il a été abandonné, mais il y a eu un geste de l'abandonneur ou de l'abandonneuse qu'il a mis dans un berceau qui flottait, qui lui a laissé une chance. Donc, le but, il a dérivé sur l'eau, et le Nil peut parfois être un fleuve vraiment très, très violent. Donc, il y a peut-être la part de chance, il y a la part d'intention du parent, de l'abandonneur. S'il y a quelque part une intention qui soit de laisser sa chance à la vie, c'est là, à mon sens, qu'on peut trouver un début d'étayage. Et ensuite, c'est l'enfant qui participe de... qui aide à l'étayage ou non. C'est l'enfant et puis les gens qui le recueilleront, qui lui donneront une certaine confiance en lui. Ensuite, c'est l'éducation. Enfin, j'ai l'impression que ma réponse est forcément partielle. Parce qu'on n'a pas tellement de parents, on n'a par définition aucune information sur les parents. Il y a des choses parfois très simples, c'est simplement un geste au moment de l'accouchement, accouchement sous X, mais un petit geste ou des choses impalpables et qui resteront dans la mémoire. Voilà ce que je peux dire. Bon, eh bien, merci de votre attention et de votre intérêt.